certains d'entre vous, bonjour à tous, où que vous soyez dans la grande région de Victoria ou encore sur Internet à nous écouter à l'adresse cilsfm.ca. C'est parti pour une nouvelle édition du Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne du 107.9 FM. Mon nom est Alexis Gagnon, je vous accompagne au cours des 60 prochaines minutes d'information et je mentionne tout de suite que notre invité du jour est Claire Carlin de l'Alliance française de Victoria. J'aurai le plaisir de m'entretenir avec Madame Carlin en fin d'émission. Bonne émission à tous. Et on commence cette revue de presse internationale avec la nouvelle du jour, une nouvelle qui domine tous les médias, le retrait des États-Unis de l'accord sur le climat, un drame. C'est le titre que n'hésite pas à donner Mediapart.fr, le portail indépendant. Redouté depuis 24 heures, la nouvelle est tombée comme un couperet. Jeudi 1er juin, les États-Unis quittent l'accord de Paris sur le climat avec le style oratoire, bancal et imprécis qui le caractérise. Donald Trump a déclaré « Afin de remplir mon devoir solennel de protection de l'Amérique et de ses citoyens, les États-Unis vont se retirer de l'accord de Paris, mais entamer des négociations pour réintégrer soit l'accord de Paris, soit une transaction entièrement nouvelle. » Et il a ajouté « Et si nous le pouvons, c'est super ». Conclu en décembre 2015 à l'issue de la COP21, l'accord de Paris engage ses 195 signataires à tout mettre en œuvre pour limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés, une hausse des températures dont les scientifiques disent qu'elle provoquerait des impacts irréversibles sur les conditions de vie sur Terre. C'est un texte historique car pour la première fois, tous les pays s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, rappelle Mediapart. Produit de 20 ans de négociations houleuses, l'accord résulte d'un savant équilibre entre des États aux intérêts économiques contradictoires. Les États-Unis se sont engagés à baisser d'ici 2025 de 26 à 28% leurs émissions par rapport au niveau de 2005. Cet objectif est moins contraignant que pour d'autres pays industrialisés, l'Europe par exemple, qui prennent eux l'année 1990 comme base de référence. En 2015, rappelle le portail d'information indépendant, dans les salles de conférence du Bourget à Paris où se déroulait la conférence, l'accord fut scruté jusqu'à la dernière minute par l'équipe de négociateurs de Barack Obama qui ne voulait laisser passer aucun détail de nature à trop engager les États-Unis. C'est pourquoi l'idée même d'une autre transaction internationale, comme le dit Donald Trump, plus favorable aux intérêts américains, est une pure lubie. Les États-Unis, pays le plus riche au monde, sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre par tête. Ils portent une responsabilité historique, comme les autres pays industrialisés, dans le dérèglement du système climatique. La Chine, plus gros pays émetteur depuis 10 ans, et l'Inde ne cessent de le rappeler dans les instances de la diplomatie du climat. L'accord de Paris est officiellement entré en vigueur le 4 novembre 2016. Pour en sortir, un État doit attendre 3 ans après cette date, puis respecter un préavis d'un an. Les États-Unis pourront donc s'en retirer le 4 novembre 2020, au lendemain de la prochaine élection présidentielle américaine. Et la nouvelle, je le disais, est reprise un peu partout sur la planète. On va rester dans les colonnes de Mediapart encore un instant. La décision de Donald Trump décriée aux quatre coins de la planète, c'est par le journaliste Thomas Cantaloube, d'Emmanuel Macron au pape François, des ministres aux ONG, de l'Europe à l'Asie et aux États-Unis même. Quasiment tout le monde dénonce la décision du président Donald Trump de retirer son pays de l'accord de Paris sur le climat. C'est plus qu'un euphémisme de dire que la décision de Donald Trump de retirer son pays de l'accord de Paris sur le climat a soulevé un tonnerre d'indignation et de condamnation aux quatre coins de la planète. Hormis la poignée habituelle de climato-sceptiques et de conservateurs pro-industrie minière, dont beaucoup sont américains, personne n'est sorti du bois pour défendre le choix du président des États-Unis et de son entourage ultranationaliste. Pas même la Russie, dont l'économie chancelante repose en grande partie sur les hydrocarbures. Quelques minutes seulement après le discours de Donald Trump dans le jardin de la Maison Blanche, qui n'a fait que confirmer ce qui était attendu depuis 24 heures, les réactions négatives, furieuses ou désabusées se sont déversées sur les antennes et les réseaux sociaux. Le président français Emmanuel Macron, pour marquer la gravité de la situation, s'est fendu d'un coup de téléphone à Donald Trump, puis d'une intervention télévisée en direct. D'autres chefs d'État ont fait connaître leur déplaisir, leur déception, notamment notamment Justin Trudeau qui a fait une déclaration qui en substance était semblable à celle des autres chefs d'État. Dans Le Monde maintenant, toujours à propos de ce retrait des États-Unis de l'accord sur le climat, après la sortie de l'accord de Paris, la Californie veut combler le vide politique. Le gouverneur Jerry Brown, le gouverneur de la Californie, écologiste convaincu, écrit le journal Le Monde, passe des partenariats avec des villes et des provinces du monde entier pour respecter, voire dépasser, les objectifs de la COP21. La COP21, c'est synonyme de accord de Paris. Alors, c'est par la journaliste Corinne Lenn dans le journal Le Monde. Corinne Lenn est correspondante du journal Le Monde à San Francisco. Pure coïncidence, écrit-elle, au moment où Donald Trump annonçait jeudi 1er juin le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, le gouverneur de Californie, Jerry Brown, se préparait à embarquer pour Pékin. Au programme, un sommet international de ministres de l'énergie et une tournée sur le climat et les énergies renouvelables. Jerry Brown prend-il la position de Trump sur la scène mondiale de l'environnement? S'interroge le Sacramento Bee, le quotidien de la capitale politique de la Californie. Écologiste convaincu depuis son premier mandat en 1975, l'élu démocrate, 79 ans, considère la décision du président Trump comme une erreur colossale. Trump parie sur un cheval mort, a-t-il dit dans l'une des 22 interviews qu'il a accordées à la presse avant son départ pour la Chine. La Californie, a-t-il dit, va faire tout ce qui est en son pouvoir, non seulement pour maintenir le cap, mais pour réunir des soutiens dans d'autres États, d'autres provinces et d'autres pays. Alors, vous trouverez cet article sur le gouverneur de Californie, Jerry Brown, dans les pages du journal Le Monde. Et toujours à propos de ce retrait des États-Unis, en Allemagne maintenant, et c'est tiré du fil de l'agence Reuters, Merkel défend l'accord de Paris au nom de notre mère, la Terre, selon sa propre expression. Angela Merkel a réaffirmé vendredi l'engagement de l'Allemagne en faveur de l'accord de Paris sur le climat, pierre angulaire de la lutte contre le réchauffement, au lendemain de la décision de Donald Trump d'en faire sortir les États-Unis. Dans une courte allocution au Bundestag, le Parlement allemand, la chancelière allemande a prédit qu'il n'y aurait pas de retour en arrière sur la voie tracée dès 1997 par le protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et prolongée par l'accord historique qui a été signé en décembre 2015 à Paris. La décision des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris, a-t-elle déclaré, est très regrettable et je m'exprime avec beaucoup de réserve en disant cela, a déclaré Angela Merkel. Nous avons besoin de cet accord de Paris pour préserver notre création, a-t-elle poursuivi, utilisant une référence religieuse, ce qu'elle fait très rarement. Angela Merkel a aussi déclaré que l'accord de Paris, qui est rejeté par le président Trump, au prétexte qu'il imposerait des coûts injustes à l'industrie américaine, selon l'expression du président américain, Angela Merkel donc a déclaré que l'accord de Paris finirait par procurer au monde davantage de prospérité et d'opportunités. À tous ceux pour qui l'avenir de notre planète est important, je dis, continuons sur cette voie afin de réussir pour notre mère, la Terre, a-t-elle conclu. Donc la chancelière allemande qui fait usage d'un vocabulaire presque spirituel dans sa défense de l'accord de Paris. Vous trouverez ça dans le fil de l'agence Reuters. Et pour rester dans ce dossier climatique, la Russie restera engagée sur l'accord de Paris. C'est dans le fil de Reuters également. La Russie a fait savoir vendredi qu'elle ne reviendrait pas a priori sur sa décision de rejoindre l'accord de Paris contre le changement climatique en dépit du retrait des États-Unis. Mais un conseiller du Kremlin a estimé que la position de Washington rendrait le traité inapplicable. La Russie est le plus important pays émetteur de gaz à effet de serre à ne pas avoir encore ratifié l'accord conclu en décembre 2015. Ses responsables ont dit avoir besoin de plus de temps pour évaluer ses conséquences économiques. Il a par ailleurs été question en Russie de mettre en place une politique de développement faiblement consommatrice de carbone, ce qui a fait dire à certains militants écologiques que la Russie ne ratifierait jamais l'accord de Paris. Le vice-premier ministre russe Arkady Dvorkovitch a déclaré vendredi qu'il ne pensait pas que la décision de Donald Trump soit de nature à modifier l'engagement de la Russie. Nous avons pris la décision de rejoindre l'accord de Paris et je ne crois pas que nous en changerons, a déclaré le vice-premier ministre russe Djurkovitch, cité par l'agence de presse RIA. Et dans les colonnes de Ouest-France, à présent, à propos de cet accord de Paris rejeté par les États-Unis, accord sur le climat, quatre questions sur le retrait des États-Unis. Alors, quelles sont ces questions? Que prévoit l'accord de Paris? conclu fin 2015 dans la capitale française par plus de 190 pays sous l'égide des Nations unies, cet accord vise à limiter la hausse de la température mondiale en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Autre question, comment les États-Unis vont-ils en sortir? L'article 28 de l'accord de Paris précise que les pays désireux de le quitter sont dans l'obligation d'attendre 3 ans après son entrée en vigueur. Leur départ ne devient ensuite effectif qu'après 1 an. Ratifié en septembre 2016 par Washington, l'accord est entré en vigueur le 4 novembre dernier, en 2016, ce qui porte à novembre 2020 une sortie du traité. Question suivante, quel sera l'impact de cette décision? La décision politique de Donald Trump n'aura qu'un impact limité, écrit le West France dans cet article. Les États les plus peuplés et les plus industrialisés, à commencer par la Californie, ont adopté des objectifs très supérieurs aux critères fédéraux en matière d'énergie renouvelable ou d'automobiles propres. La Maison-Blanche n'a pas le pouvoir de les démanteler. Question suivante, comment vont réagir les autres grandes puissances? Les conséquences de ce retrait vont aussi dépendre de la réaction des autres pays, écrit West France. Certains, comme la Chine, ont déjà réaffirmé leur attachement à l'accord de Paris. La Chine maintiendra ses responsabilités concernant le changement climatique, a assuré le premier ministre chinois lors d'une conférence tenue ce jeudi à Berlin aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel. La Russie, comme on le disait un petit peu plus tôt, a elle aussi dit la grande importance du texte, tout en reconnaissant que l'efficacité de cet accord risquait d'être réduite sans certains participants clés. Alors voilà les questions principales entourant le retrait des États-Unis, c'est dans West France. Et si on reste dans les pages de West France 2 secondes, je vous propose aussi cet article intitulé « 5 preuves que Donald Trump se trompe sur le climat ». Climato-sceptique, le président américain a toujours considéré que le changement climatique était une connerie, un concept inventé par les Chinois pour empêcher l'industrie américaine d'être compétitive, selon ses propres termes. Voici pourtant 5 preuves irréfutables du réchauffement climatique avancé par le GIEC. Qu'est-ce que le GIEC? C'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors, allons-y avec ces 5 preuves. Augmentation de l'effet de serre, hausse des températures, catastrophes naturelles en augmentation, accélération de la fonte des glaces, et finalement, hausse du niveau de la mer. Alors, on referme cette question du rejet par Donald Trump de l'accord de Paris. On va poursuivre cette revue de presse internationale. Et si l'on revient quelques instants dans le journal Le Monde à propos de l'élection qui approche à grands pas en Grande-Bretagne, c'est le 8 juin qu'aura lieu cette élection. Royaume-Uni, porté par les sondages, Jeremy Corbyn se pose en garant d'un Brexit réussi. C'est le titre de cet article du journal Le Monde. « Nous sommes prêts », déclare Jeremy Corbyn à une semaine des élections législatives du 8 juin. Le chef du Labour, ou parti travailliste si vous préférez, s'est posé jeudi 1er juin en porteur d'une alternative crédible au gouvernement conservateur, y compris pour négocier avec Bruxelles un accord de sortie de l'Union européenne qui préserve l'économie et l'emploi des Britanniques. « Voilà mon équipe pour le Brexit », a déclaré Jeremy Corbyn, « des gens sensés et intelligents ». Parmi eux, personne n'a menti au peuple britannique en promettant de financer les hôpitaux grâce au Brexit. Allusion au slogan ravageur mais mensonger de la campagne pro-Brexit portée par Boris Johnson, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères du cabinet de Theresa May. Voilà, donc les sondages montrent Corbyn en ascension actuellement. On va voir si ça se poursuit jusqu'au scrutin. Justement, à propos des sondages, je vous cite cet article paraissant dans le portail Mediapart. Les Tories s'éloignent encore plus de la majorité absolue selon un sondage. Donc les Tories, ce sont les conservateurs de Theresa May. Le parti conservateur de Theresa May perdra sa majorité absolue à la Chambre des communes lors des élections législatives de jeudi prochain, prédit l'Institut de sondage YouGov. Dans une modélisation circonscription par circonscription qu'il publie chaque jour, YouGov estime vendredi que le Parti conservateur obtiendra 313 sièges, soit 13 de moins que la majorité absolue. Il en occupe aujourd'hui 330. Le Parti travailliste de Jeremy Corbyn en obtiendrait 257, un gain de 84 sièges. Depuis l'annonce le 18 avril par la première ministre Theresa May de la tenue de ce scrutin anticipé du 8 juin, la confortable l'avance du Parti conservateur s'est réduite comme une peau de chagrin. Alors, vous trouverez les détails dans le portail de Mediapart. C'est aussi dans le fil de l'agence Reuters. Et on va terminer en vous suggérant un éditorial qui paraît dans Le Monde diplomatique, édition de juin 2017. C'est par l'éditorialiste Serge Halimi. C'est intitulé Les années folles et c'est sur l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron à la présidence française. La large victoire d'Emmanuel Macron a enthousiasmé les milieux dirigeants de l'Union européenne, écrit Serge Halimi. Un de leurs commentateurs assermentés, ronronnant de bonheur, estimait même qu'il s'agissait du premier coup d'arrêt décisif à la vague populiste. Profiter de l'instant pour faire passer en force le programme néolibéral de la Commission européenne démange donc les nouveaux gouvernants français qui ont le code du travail dans leur viseur. Une orientation politique identique sera désormais incarné à Paris par un homme plus jeune, plus cultivé et moins radicalement dépourvu d'imagination et de charisme que son prédécesseur François Hollande. Les miracles de la communication et du vote utile, comme on l'appelle, permettent de travestir ce léger changement en un basculement historique ouvrant la voie à toutes les audaces. L'effacement du clivage entre les deux camps que chante une presse occidentale en pamoison devant son nouveau prodige Emmanuel Macron relève lui aussi de la fantaisie. Gauche et droite française appliquent en effet à tour de rôle la même politique depuis 1983, rappelle Serge Halimi, qui pose un regard, disons, lucide, en tout cas cynique, sur l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, accession qui s'est produite donc aux élections présidentielles du 7 mai. C'est dans Le Monde diplomatique. Et c'est avec cet éditorial du Monde diplomatique qu'on referme la revue de presse internationale du 2 juin. Restez avec nous à l'antenne de votre fréquence communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien, va se poursuivre dans quelques instants avec la revue de presse canadienne. Merci de syntoniser votre radio communautaire francophone locale. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief, édition du vendredi 2 juin. Nous allons passer aux nouvelles canadiennes. Voici votre revue de presse nationale. Et on débute dans le fil de la presse canadienne avec cette manchette. Raif Badawi, Amnesty International, demande l'intervention de Justin Trudeau. À l'approche du 5e anniversaire de l'emprisonnement de Raif Badawi, Amnesty International lance un appel pressant au premier ministre Justin Trudeau pour qu'il réclame publiquement la libération du blogueur saoudien. L'organisme lui demande également de recruter d'autres chefs d'État pour en faire autant et d'exiger le respect par l'Arabie saoudite de ses obligations internationales comme signataire des conventions relatives aux droits humains. De plus, Amnesty International a posté sur son site Internet une vidéo des trois enfants de Raif Badawi qui demande au premier ministre d'appeler le roi d'Arabie saoudite. Alors, cet article paraît dans le fil de la presse canadienne et on peut mentionner au passage que l'épouse de Raif Badawi, cet opposant au régime saoudien, est maintenant au Canada. Elle habite d'ailleurs la ville de Sherbrooke au Québec. Crise des opioïdes, Justin Trudeau veut renverser la vapeur. C'est également dans le fil de la presse canadienne. Le premier ministre Justin Trudeau s'engage à lutter contre la crise des opioïdes avec les provinces et les municipalités jusqu'à ce qu'il réussisse à renverser la vapeur. Le premier ministre a tenu ses propos vendredi matin lors d'un discours dans le cadre du congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités, la FCM, qui réunit plus de 1900 maires et conseillers municipaux des quatre coins du pays. La crise des opioïdes est l'un des grands enjeux abordé lors de cette rencontre. La semaine dernière, les maires de 13 grandes villes du Canada, dont Montréal, ont tiré la sonnette d'alarme. Ces maires s'inquiètent de l'augmentation du nombre de surdoses liées à la consommation de fentanyl et de carfentanyl. Les maires demandent au gouvernement fédéral d'élaborer un plan d'action national. Ils désirent, entre autres, qu'Ottawa coordonne les efforts fédéraux, provinciaux, municipaux en déterminant les cibles de réduction des surdoses et en déterminant des mesures pour atteindre ces cibles et un échéancier. Justin Trudeau a affirmé que son gouvernement travaille avec les villes et les provinces pour trouver des solutions durables à cette crise sans préciser quelles mesures supplémentaires il envisage. On reste dans le fil de la presse canadienne. Marijuana, le Canada sur le point d'enfreindre 3 traités. Des experts en droit international et les partis de l'opposition exhortent le gouvernement de Justin Trudeau à faire part de ses intentions quant à 3 traités des Nations Unies qui entrent en conflit avec son plan de légaliser la marijuana récréative d'ici l'été prochain. Le porte-parole conservateur en matière d'affaires étrangères soutient que la réputation du pays sur la scène internationale est en jeu. Peter Kent estime qu'Ottawa devrait se retirer de ses ententes avant de les enfreindre et ainsi en respecter les signataires. Le Canada figure actuellement parmi les quelques 185 pays ayant ratifié ces 3 accords de lutte anti-drogue, la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention sur les substances psychotropes de 1971, de même que la Convention sur le trafic illicite des psychotropes de 1988. Tous ces traités exigent la criminalisation de la possession, de même que de la production de cannabis. Dans le journal La Presse, le remplacement des navires de combat du Canada coûtera 2,4 fois plus cher que prévu. Le directeur parlementaire du budget affirme que le remplacement des navires de combat canadiens par le gouvernement est en voie de coûter aux contribuables 2,4 fois plus cher qu'initialement prévu. Le directeur parlementaire du budget estime qu'il en coûtera près de 62 milliards de dollars à Ottawa pour le remplacement de 15 navires, soit plus de 2 fois la somme de quelques 26 milliards initialement prévus dans le budget de 2008. L'analyse de Jean-Denis Fréchette indique que le coût par navire a bondi à 4,1 milliards de dollars alors qu'on l'estimait à 1,7 milliards de dollars en 2008. Article intéressant dans le portail indépendant ricochet.media, c'est du côté francophone de ce portail indépendant. Les douaniers canadiens auraient du mal à identifier les migrants et les migrantes victimes de la traite des personnes. C'est par le journaliste Thomas Dufour. Malgré les centaines de milliers de dollars versés chaque année par le gouvernement fédéral afin de lutter contre la traite des personnes migrantes aux frontières, l'identification de ces victimes reste une tâche ardue pour les agents des services frontaliers. Cette difficulté à intervenir pourrait être attribuable à un manque de formation, expose un mémoire en criminologie publié à l'Université de Montréal en 2015. Dans cette étude, on peut lire que 2 agents de l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau à Montréal, sur les 7 interrogés, ont dit ne pas se sentir outillés pour identifier les victimes de traite, tandis que les 5 autres ont affirmé avoir de grandes difficultés à le faire. Un seul cas de traite a pu être décelé par l'un des employés. Les 7 membres de l'Agence des services frontaliers affirment avoir très peu de souvenirs en ce qui a trait à la formation qu'ils ont reçue à l'embauche en matière de traite des personnes. Ces derniers rapportent que le segment abordant cet aspect durait une demi-journée sur une formation de plus de 3 mois. De telles déclarations sont faites dans un contexte où le taux d'infraction lié à la traite des personnes par habitant au pays a plus que quintuplé entre 2010 et 2014, selon Statistique Canada, passant de 0,1 à 0,55 cas par 100 000 habitants. Cette augmentation des infractions, demande le journaliste, ne serait cependant pas synonyme d'une augmentation de la traite elle-même. Est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'il y a plus de prévention? Est-ce parce qu'on en parle plus dans les médias et ça incite plus de gens à dénoncer? C'est la question qu'on peut se poser, indique Nathalie Katt, présidente de Faire des Affranchis, un organisme qui sensibilise le public à la traite des personnes. Plus loin dans cet article, on peut lire le passage suivant. En matière de reconnaissance, plusieurs obstacles se dressent devant les agents des services frontaliers. Il est parfois difficile de reconnaître une victime, car dans de nombreux cas, cette dernière ne se considère pas comme telle. Les victimes migrantes viennent de pays aux valeurs différentes, où les choses se font différemment, où l'exploitation, comme on la définit ici, est perçue comme du travail, expose Mélissa, une avocate citée anonymement dans cette étude. Et on a deux nouvelles dans la rubrique francophonie du jour. Ramener la confiance de la communauté, bilan du mandat de la présidente de la FFCB. Alors, c'est une nouvelle à thématique francophone et à thématique britanno-colombienne. Vous allez le voir, la présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, la FFCB, Padmini Chondonsing, dresse le bilan de ses deux années à la tête de la Fédération. Elle dit avoir réussi à ramener la confiance de la communauté en l'organisme porte-parole de la francophonie en Colombie-Britannique, notamment la confiance du conseil scolaire francophone. C'est dans le portail de Radio-Canada. La présidente croit avoir réussi à se rendre accessible à la communauté et à la rassembler. À l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale annuelle, Padmini Chondonsing souligne la discussion à huis clos entourant la gestion du programme d'immigration francophone. Nous voulons voir comment on peut rendre ce dossier quelque peu autonome, un peu comme on avait fait avec le Conseil jeunesse qui était sous tutelle de la Fédération, rappelle-t-elle. On essaie de travailler sur ce dossier, ce qui va prendre un peu de temps. Donc, ce court article sur la présidente de la FFCB se trouve sur le portail britanno-colombien de Radio-Canada. L'autre nouvelle dont je voulais vous parler aujourd'hui est à caractère international. C'est une nouvelle qui paraît dans le journal La Croix, lacroix.com. Et c'est une nouvelle qui parle d'une chaîne internationale que vous connaissez sans doute, TV5 Monde. C'est une chaîne au financement de laquelle participent différents pays, dont la France, le Canada, la Belgique, la Suisse, mais aussi le Québec. Donc, c'est une collaboration internationale que cette chaîne TV5 Monde. Et on trouve dans le journal La Croix une interview fort intéressante du directeur général de TV5 Monde qui répond aux questions du journal La Croix. TV5 Monde rappelle cet article est né de la volonté de cinq pays francophones de créer une chaîne commune pour promouvoir une langue et des valeurs. Dans cette interview, Yves Bigot déclare que TV5 Monde est un modèle unique d'union de groupes de pays pour créer une chaîne de télévision. TV5 Monde, rappelle-t-il, a été lancé en 1984 par des télévisions publiques françaises, belges et suisses, rejointes plus tard par leurs cousines du Québec et du Canada. TV5 Monde a deux ADN, dit-il. Elle est une chaîne francophone et multilatérale, mais aussi un diffuseur et producteur culturel. Nos programmes, qui représentent la création audiovisuelle francophone, cinéma, fiction, documentaire, JT et magazines culturels, sont diffusés en français et sous-titrés dans 14 langues. Quel bilan dressez-vous de la chaîne, demande le journal La Croix. Le bébé a sacrément grandi puisque nous sommes le troisième plus gros réseau de télévision au monde derrière MTV et CNN, répond-il. Tous les pays nous reçoivent, y compris la Corée du Nord. Nous sommes regardés chaque semaine par 55 millions de téléspectateurs dans les 24 pays où nous avons des mesures d'audience, ce qui fait 180 millions de personnes si nous extrapolons. Et nous passerons de 260 millions de francophones, rappelle-t-il, à environ 400 millions en 2025 dans le monde et sans doute 700 millions en 2050. Cela nous donne, dit-il, des perspectives de croissance mécanique. Le français est la deuxième langue la plus enseignée, la cinquième langue la plus parlée dans le monde. On assiste à un glissement de certains pays pour s'arrimer à la francophonie et rejoindre les valeurs qu'incarnent les pays francophones et sortir de la seule zone d'influence des États-Unis. En Afrique, poursuit-il, où se concentre le plus grand nombre de francophones, nous avons lancé une chaîne jeunesse. Nous proposons des cours de langue en ligne et nous allons mettre en œuvre un plan de transformation numérique pour ce continent passer directement de la machine à écrire au smartphone. Alors, ces propos recueillis par La Croix sont sous le titre « Yves Bigot, TV5 Monde accompagne la montée de la francophonie ». Alors, un court bilan pour la chaîne publique multilatérale financée par les pays francophones que sont la France, la Suisse, la Belgique et le Canada et aussi le Québec par ailleurs. Donc, un article, une interview fort intéressante donnée par Yves Bigot dans le journal La Croix. C'était votre information à thématique francophone dans cette édition du 2 juin du débrief. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale. Nous écoutions à l'instant la formation chargée avec une pièce intitulée Dépanneur. C'est toujours Alexis Gagnon en votre compagnie dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne de CILS FM 107,9. Nous allons à présent passer aux nouvelles de Colombie-Britannique. Voici votre revue de presse provinciale. Et on débute avec une nouvelle qui fait le pont entre l'international et le provincial. C'est une nouvelle qui paraît dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Accord de Paris, déception du prix Nobel de la paix Andrew Weaver. Alors, vous reconnaissez le nom. Andrew Weaver, c'est l'élu de la circonscription Oak Bay-Gordon Head à la tête du Parti vert. Certains d'entre vous savaient sans doute qu'il est aussi Nobel de la paix. Et justement, suite au retrait des États-Unis de l'accord de Paris, évidemment, il a réagi après l'annonce par Donald Trump du retrait des États-Unis de l'accord de Paris, écrit Radio-Canada. Andrew Weaver, le chef du Parti vert de la Colombie-Britannique et co-lauréat en 2007 du prix Nobel de la paix pour son action pour le climat, a fait part de sa profonde déception. Je suis profondément déçu du président américain Donald Trump qui a annoncé son intention de quitter l'accord de Paris sur le climat, a déclaré Weaver par voie de communiqué cette semaine. Cependant, les actions audacieuses prises par la Californie, l'État de Washington et d'autres pour atteindre leurs cibles climatiques sont très encourageantes. Peu après l'annonce de la Maison-Blanche, les gouverneurs Edmund Brown en Californie, aussi qu'on appelle Jerry Brown, Jay Inslee de l'État de Washington et Andrew Cuomo de l'État de New York ont annoncé la formation d'une alliance climatique américaine dont les membres s'engagent à faire respecter l'accord de Paris à l'échelle de leur juridiction. La Californie et les États de Washington et de New York réunis représentent 68 millions d'Américains et 10% des émissions de gaz à effet de serre produits par les États-Unis, indique cette nouvelle alliance. La signature de l'accord de Paris a été un succès historique. Le monde a reconnu sa responsabilité d'agir pour les générations futures, a poursuivi Andrew Weaver, qui estime en outre que les résultats des récentes élections du 9 mai en Colombie-Britannique sont le signe que les citoyens de la province sont à nouveau prêts à être des leaders en matière de climat. Et Weaver affirme en substance que le caucus vert va travailler d'arrache-pied pour s'assurer que la Colombie-Britannique atteigne ses cibles climatiques tout en développant l'économie verte. Alors vous trouverez cet article dans le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique, Accord de Paris, déception du prix Nobel de la paix Andrew Weaver. Relations commerciales entre le Canada et les États-Unis à présent, et bien sûr on parle de bois d'œuvre, soulagement en Colombie-Britannique, première productrice de bois d'œuvre. Le secteur du bois d'œuvre britanno-colombien accueille favorablement l'annonce de l'investissement de 867 millions de dollars par Ottawa pour faire face à une taxe récemment imposée par l'administration Trump. Le Conseil des producteurs de bois d'œuvre de la Colombie-Britannique, le BCLTC, qualifie le geste du fédéral de réponse prudente qui permettra non seulement d'apporter un soutien immédiat, mais aussi d'envisager un avenir moins sombre. Et justement, à propos de bois d'œuvre, le softwood, comme on l'appelle en anglais, citons cet article du Times Colonist qui paraît aujourd'hui. John Horgan exhorte la première ministre Christy Clark à convier l'Assemblée législative de Colombie-Britannique le plus tôt possible. Et justement, il cite la question du bois d'œuvre qui est la pomme de discorde entre le Canada et les États-Unis actuellement sur le plan commercial. Il cite aussi la crise des surdoses. On sait que la Colombie-Britannique est en crise sanitaire depuis plus d'un an à cause des nombreux décès par surdose. Donc, John Horgan appelle Christy Clark à convier les membres de l'Assemblée législative en chambre afin que les questions urgentes puissent être traitées. Et rappelons bien sûr que Christy Clark va se soumettre à un vote de confiance en chambre. Elle s'attend bien sûr à être défaite, n'ayant que 43 députés libéraux avec elle, incluant son siège propre. Et c'est vraisemblablement une alliance entre John Horgan et Andrew Weaver qui se confirmera. Et on aura un gouvernement dirigé par John Horgan, avec l'appui des Verts. Poursuivons cette revue de presse provinciale, si vous le voulez bien. On va se transporter dans les colonnes de Burnaby Now. C'est un média qu'on trouve à l'adresse burnabynow.com. BC NDP Green Partnership about Electoral Reform, Banning Big Money and Stopping Kinder Morgan. Alors, traduction rapide, l'entente de partenariat intervenue entre le Parti néo-démocrate de Colombie-Britannique et le Parti vert de Colombie-Britannique repose sur trois dossiers clés, à savoir la réforme du scrutin, l'interdiction du financement politique illimité et l'annulation de l'expansion du pipeline Trans Mountain de la pétrolière Kinder Morgan. Alors, c'est un excellent résumé de ces trois enjeux qui sont véritablement cruciaux et qui forment le noyau au cœur de cette entente qu'ont conclu les partis néo-démocrates et verts de Colombie-Britannique. Vous trouverez ça dans Burnaby Now, sous la plume de Teresa Verenza. Et retour dans les colonnes du Times Colonist, notre quotidien local ici à Victoria. On nous informe que les festivals de musique de l'île de Vancouver se préparent cette année à faire face à éventuellement des surdoses de fentanyl. Vu la gravité de la situation actuelle et le nombre de surdoses qui continuent d'augmenter dans la province, les festivals de musique, les différentes manifestations musicales de l'île de Vancouver se sont réunis pour prendre des mesures afin de minimiser les risques de surdoses sur les différents sites où auront lieu les 10 festivals. Donc, vous trouverez ça dans le Times Colonist. Frappé par la foudre, il raconte son expérience incroyable. C'est dans le portail de TVA Nouvelles. Et cet homme frappé par la foudre, c'est un résident de Victoria. C'est un homme qui a été donc foudroyé pendant qu'il faisait le plein de propane et il a réussi à stopper le dispositif de propane à temps malgré le choc et la douleur. C'est décrit dans cet article de TVA Nouvelles. Ça avait paru bien sûr dans la presse anglophone locale cette semaine. Peut-être étiez-vous déjà au courant. Donc si vous voulez vous rattraper sur ce petit fait divers, c'est dans le portail tvanouvelles.ca. Voilà qui conclut le petit tour d'horizon des informations provinciales et locales. Vous écoutez le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Dans un instant, je retrouve la présidente de l'Alliance française de Victoria, Claire Carlin, qui nous a accordé aujourd'hui une interview. Claire Carlin va bientôt laisser son poste de présidente, mais demeurera très impliquée, très engagée à l'Alliance française. Restez à l'écoute, cette interview sera diffusée dans quelques instants à l'antenne de CILS FM 107,9. Vous écoutez CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. Vendredi 2 juin, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Claire Carlin. Bonjour Claire. Les auditeurs vous connaissent, ceux qui syntonisaient la radio en fin de semaine dernière vous ont entendu. Vous êtes présidente de l'Alliance française dans la grande région de Victoria et on a appris à travers les branches, comme on dit, que vous alliez quitter vos fonctions prochainement. Est-ce que cette information est rigoureusement exacte?
Oui, dans la mesure où je ne serai plus la présidente, je vais passer le flambeau après 2 ans de présidence, mais je vais rester membre du conseil.
Quelle est la durée d'un mandat à l'Alliance française pour la présidence normalement?
C'est souvent 2 ans, mais formellement c'est 1 an. On a le droit d'élire une nouvelle personne chaque année, en principe, à la GA. Mais pour un peu avoir un peu de continuité, 2 ans n'est pas une mauvaise idée. C'est d'habitude comme ça qu'on fait.
Alors vous ne partez pas à mi-mandat.
Mais non.
Non.
Mais non.
Qu'est-ce qui vous a incité à quitter les fonctions? Est-ce que vous n'aviez-vous pas envie de briguer la fonction à nouveau, d'obtenir un renouvellement?
Bon, je pense que c'est une démarche saine pour nos associations en général. Si on peut, s'il y a d'autres qui ont de l'énergie, de l'enthousiasme et la bonne volonté de vouloir présider une association comme l'Alliance française, je pense que c'est une très bonne idée de passer le flambeau tout en essayant de garantir une continuité en restant sur le conseil, hein, l'ancienne présidente ou présidente. Mais la personne qui a accepté de prendre le relève, c'est Alyssa Parker, qui est une jeune personne, relativement parlant. C'est souvent le cas dans nos associations que ce sont les retraités qui ont le temps de consacrer à la direction d'une association comme l'Alliance française et les autres petites associations. Mais heureusement que Alessa, qui est sur le conseil depuis 2 ans et qui a beaucoup d'expérience, d'excellentes idées, le désir de prendre de nouvelles initiatives, je pense que c'est une très bonne chose de donner un visage plus jeune que la
Formidable.
mienne.
Donc, on reparlera de Madame Parker dans un petit moment. Est-ce qu'on peut dresser un petit récapitulatif de vos 2 ans à la tête de l'Alliance ici dans la grande région de Victoria?
Oui, tout à fait. C'est avec plaisir que je revois ces 2 années. Il reste beaucoup à faire,
Quels dossiers vous ont occupé le plus?
l'Alliance française a une sorte de double mission. C'est d'une part les cours de langue française qu'on offre dans des centres communautaires de la ville et en cours privés aussi pour des agences du gouvernement et des entreprises. Donc c'est la mission enseignement d'une part et puis
Qui
d'autre.
procure des revenus à l'Alliance?
On est une société à but non lucratif, alors on gagne relativement peu, mais il nous faut évidemment faire tourner les affaires et il faut payer les professeurs. C'est surtout cela. Les revenus sont employés pour rémunérer le personnel. Et nous avons aussi comme consultante qui est là constamment, une directrice pédagogique qui nous aide à mettre en œuvre tous ces cours. Et à l'heure actuelle, c'est Carole Mazur qui est très expérimentée comme enseignante elle-même et qui est une excellente directrice qui a beaucoup de bonnes idées. Notre ancienne directrice pédagogique, Leona Brown, était aussi quelqu'un qui se dévouait pour la cause de l'enseignement du français à Victoria. Alors, grâce à ces 2 personnes-là et avec le soutien des membres du conseil, je pense qu'on peut offrir un programme assez intéressant, toute la gamme du débutant jusqu'au cours avancé. Et Carole a des idées pour renouveler l'offre un peu et l'élargir.
Outre l'enseignement, quelles autres activités phares sont dans le portefeuille de l'Alliance française actuellement?
Alors, notre autre mission principale, c'est un programme culturel. Et à la base de ce programme, on a une série de conférences qui a lieu tous les mois. Et je pense que nous sommes la seule association à avoir au moins une conférence par mois avec une petite trêve en juillet et août.
Est-ce qu'on peut mousser les prochains rendez-vous dans le cadre de ces conférences? Est-ce que en juin, par exemple, le mois qui débute ces jours-ci, est-ce qu'on a une conférence prochainement?
Alors là, je dois dire puisqu'on vient de passer par 2 journées mouvementées lors du Festival de la Francophonie,
Oui.
on a aussi notre AGA en juin. Donc, on a décidé de nous calmer un peu cette année. Il n'y a pas de conférence en juin. Il y a par contre une rencontre après l'AGA. On va
Oui.
aller manger ensemble au pub Penny Farthing. Et bien sûr que l'AGA, c'est pour les membres, mais tout le monde est invité à se joindre à nous par la suite si on a envie de manger ensemble de façon conviviale au Penny Farthing le 29 juin, le soir.
Et Madame Parker, pour revenir à Madame Parker, c'est votre successeur. Comment a-t-elle été choisie? Est-ce que sa nomination est confirmée? Est-ce qu'elle a été élue?
Il faut attendre l'AGA. pour qu'elle soit officiellement élue. J'hésite un peu à en parler pour
elle
cette
a de
raison.
Elle a de solides appuis.
Elle a de solides appuis parce que, comme je l'ai dit, elle est membre du Conseil depuis 2 ans. Donc, elle a fait ses preuves et elle connaît tous les dossiers. Elle est toujours surtout enthousiaste pour mettre en œuvre un plan de communication marketing et renouveler notre site parce que, comme toutes les associations, il faut renouveler le site Internet. C'est très, très important. Et elle s'intéresse à cela. Elle a des compétences techniques qui lui permettent de bien conseiller. Il va y avoir un petit comité qui va s'occuper de ce plan de communication marketing, mais elle est très, très capable de mener le jeu. Je devrais dire que, pour ne pas trop nous éloigner du programme culturel de l'Alliance, on a déjà des conférences intéressantes en vue pour l'année prochaine. On va tout exposer sur le site en juillet. Une autre des nouvelles membres potentielles du conseil, Madame Hélène Potvin, va coordonner les conférences, mais on a un programme bien alléchant en vue. À commencer en septembre par un café scientifique sous les auspices du consulat de France à Vancouver. Et ce qui me passionne pour ce café scientifique, c'est que pour la première fois à Victoria, il aura lieu en français, parce que avant, le consulat voulait qu'on fasse les cafés scientifiques en anglais.
Oui, la science en français, c'est pas gagné d'avance, hein, avec toutes les publications qui se font en anglais, surtout dans les sciences dures.
Oui, oui, mais ces cafés sont c'est pour le public, le grand public.
D'accord.
Francophone.
Oui.
Et science est à comprendre dans le sens large. Alors, on va avoir une Québécoise qui est maintenant basée en France, José Sarrazin, qui va parler des océans et de l'écologie des océans. Elle est là pour un colloque, alors c'est le
Est-ce
bon
qu'on
moment.
A la date?
Oui, c'est le 11 septembre.
D'accord, mais ça vient vite.
Oui, oui, à 5h30 de l'après-midi. Et ce sera à l'Université de Victoria. Mais la deuxième conférence, oui. Parce qu'il y a toujours, je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours deux petites conférences, petites présentations dans un café scientifique. Et l'autre est de Madame Sarah Harvey.
Toujours en français?
Toujours en français,
d'accord.
Bien sûr, et qui me succède comme prof de lettres du 17e siècle à l'Université de Victoria.
D'accord, d'accord. Très bien. Alors, cours de langue française, programme culturel avec des conférences. Il y a aussi le 14 juillet qui approche très vite.
Il y a un des éléments les plus satisfaisants pour moi pendant ces 2 ans a été de travailler avec les autres associations. Et les grandes fêtes se font toujours en partenariat avec d'autres associations. On a au début de l'année, par exemple, la Galette des Rois avec la Société francophone.
Oui.
Et puis, bien sûr, que le Festival de la francophonie ou la Société francophone met tout en œuvre nous permet, à nous autres associations, d'avoir nos pavillons, comme on disait cette année, ça. Et on a partagé deux tentes avec France et du Monde. Et j'espère que beaucoup d'entre vos auditeurs ont pu nous
acheter
voir.
Des livres.
Oui, la vente des livres a été un grand succès. On a gagné presque $400 qu'on va donner à un étudiant ou une étudiante se spécialisant en français à l'Université de Victoria.
Magnifique.
Oui, on a déjà un fonds de bourse à l'université et ça va servir à l'augmenter cette année. Et puis, il y a le 14 juillet qu'on fait également avec Français du Monde.
Oui, on en a touché mot lors du Festival de la francophonie. On peut peut-être redonner les éléments, les infos vitales entourant ce grand rendez-vous de la fête nationale française.
Absolument. Alors,
Cette année,
une petite particularité, c'est que la fête aura lieu le 13 et non pas le 14 juillet.
Mais, oui, alors à 9 fuseaux d'écart, c'est en synchronicité avec l'Hexagone.
Absolument.
La métropole, voilà. Comme vous l'appelez.
Voilà. Donc c'est à 5 à 7, nous nous verrons à 5 heures de l'après-midi au oui. Parkside Hotel.
Et c'est pas seulement pour les Français, c'est aussi pour les francophones,
tout le monde.
Les francophiles.
Les francophones, les francophiles, tout le monde est invité. L'année dernière, on s'est beaucoup amusé au même endroit. On est au 8e étage dans une très belle salle, la City Club Lounge, où il y a des terrasses aussi à l'extérieur. On a vu sur la ville et la montagne.
Vu sur l'Académie Sainte-Anne, qui est vraiment un haut lieu de la francophonie à Victoria.
Justement, ça fait grand plaisir de pouvoir voir l'Académie Sainte-Anne de cette perspective. Je trouve ça d'autant plus touchant que je viens de me joindre au conseil de l'Association historique francophone de Victoria.
C'est vrai.
Je note que pour
le 13 juillet,
on mange bien. Il y a de la musique d'accordéon.
Oui.
Live en direct. Et y a aussi, mais le bar est payant.
D'accord.
Les billets coûtent $20. Et on peut toujours réserver. Vous pouvez voir, tout le monde peut voir le détail sur notre site. C'est tout simplement afvictoria.ca.
afvictoria.ca.
Oui, ou écrire pour réserver à basti.victoria@gmail.com.
Parfait. D'accord. Alors, c'est un rendez-vous pour le 13 juillet, dans un peu plus d'un mois, Fête nationale des Français, un événement piloté par l'Alliance française. Quelques mots sur Madame Parker, un petit topo biographique. Est-ce qu'elle est de langue maternelle française?
Non. Comme moi, elle est anglophone. Alors, l'Alliance française a la tradition d'accueillir, en effet, tout le monde, francophone et anglophone, mais il faut absolument être francophile et avoir étudié la langue, être capable de s'exprimer en français, bien sûr.
Donc, dans le cas de Madame Alissa Parker, quel est son parcours? Est-elle canadienne?
Oui, elle est canadienne et elle est géographe. Elle travaille à plein temps parce qu'elle n'est pas retraitée comme les autres membres du conseil.
Où a-t-elle appris le français?
Un peu partout. Elle a fait des cours universitaires. Elle a fait des cours avec l'Alliance française aussi.
Donc, elle s'est accordée les participes passés?
Je pense qu'elle est vraiment experte en participes passés.
Ah! Ça milite en sa faveur.
Oui, alors, non, elle a fait un séjour linguistique à l'Alliance française de Montpellier. Aussi
D'accord.
bien que de suivre des cours ici à l'Alliance française Victoria. Mais elle fait un grand effort pour se mettre dans des situations où elle peut utiliser son français. Elle n'a pas la chance que nous avons de travailler en milieu francophone. Elle a toutes les festivités. Nous avons notre café croissant tous les 15 jours au Café Nard. Et Alissa est toujours là, n'est-ce pas? Et elle a l'occasion de s'exprimer. Et je suis sûre que vous allez avoir l'occasion de lui parler.
Alors, le 13 juillet, son élection sera encore toute récente. Sans doute prononcera-t-elle une courte allocution à l'occasion de ce rendez-vous de l'Alliance française?
Sans doute.
Parfait.
Sans doute. Elle le fera, et aussi bien que Mme Danielle Thaler pour Français du Monde. Et puis, bien sûr, notre consul honoraire, François Viconel, sera là aussi à prononcer un petit discours.
Magnifique, magnifique. Claire Carlin, un grand merci pour cette visite dans les studios de CILS. Allez-vous demeurer au Conseil de l'Alliance française?
Oui, bien sûr.
Oui, donc vous demeurez dans le cénacle, dans le cercle des initiés de l'Alliance française. C'est parfait. Merci beaucoup pour cette visite. On a eu vraiment un très beau temps au festival. C'était magnifique de voir tout le monde, notamment l'Alliance française et Français du Monde. Au plaisir de se retrouver prochainement à l'antenne de CILS.
Merci bien, Alexis.
À bientôt. Encore merci à Claire Carlin pour cette interview accordée ici même au studio de CILS FM 107,9. C'est déjà tout pour cette édition du 2 juin de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne du 107,9 FM. On va jeter rapidement, en se laissant, un petit coup d'œil sur la météo. On a des prévisions encourageantes pour le week-end sur le portail d'Environnement Canada à l'adresse météo.gc.ca. On peut voir que demain, samedi 3 juin, le mercure atteindra 16 degrés avec du soleil. C'est une alternance soleil-nuage qui va marquer cette journée. Ça sera nuageux en fin de journée demain samedi 3 juin. Mais le soleil sera de retour dans la journée du dimanche 4 juin, un maximum de 18 degrés au mercure. Idem, c'est une alternance de soleil et de nuages. Ça demeurera dégagé au cours de la soirée. Et Environnement Canada nous informe sur le même portail météo.gc.ca que le début de semaine sera lui aussi très ensoleillé avec un maximum de 21 degrés mercredi 7 juin. Les températures vont osciller entre 18 et 21 en début de semaine avec un soleil qui sera largement dominant dans le ciel. Donc voilà pour les prévisions de la météo. Alexis Gagnon au micro, merci d'avoir traversé cette édition du Débrief avec moi. Au plaisir de se retrouver lundi dans l'édition du 5 juin.
CILS FM, l'unique radio communautaire francophone de Colombie-Britannique.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Shara Prophet, l'Ombudsman des contribuables du Canada, rendra public la semaine prochaine les résultats d'un examen sur les décisions de l'Agence du revenu du Canada. Celle-ci vise le régime de pension du Canada et l'assurance-emploi. D'après une dépêche en provenance du bureau de l'Ombudsman, eh bien le rapport soulignera les constatations et les recommandations de l'Ombudsman quant aux renseignements fournis par l'Agence dans ses décisions relatives au statut d'emploi d'un travailleur, ce qui détermine en bout de ligne si le travailleur est assurable et s'il peut recevoir une pension. Le CRTC demande à toutes les entreprises de téléphone et de services sans fil de moderniser leur réseau afin d'être prêts à offrir des services 911 de prochaine génération. Président du CRTC, Jean-Pierre Blais, a dit qu'au fur et à mesure que la technologie devient disponible, nous devons nous assurer que le système d'urgence du Canada s'adapte. Il a dit que la sécurité des Canadiennes et Canadiens repose dans une grande mesure sur un accès rapide et efficace aux services d'urgence. Le CRTC a déclaré que les réseaux doivent être prêts à offrir des services vocaux 911 de prochaine génération d'ici le 30 juin 2020 et des services de messagerie texte 911 de prochaine génération d'ici le 31 décembre 2020. Les Forces armées canadiennes lancent un programme offrant aux femmes la possibilité de se familiariser avec la vie militaire. Deux séances de 10 jours auront lieu en août et deux autres de 3 jours en octobre aux bases Borden et à la garnison Saint-Jean respectivement en Ontario et au Québec. 25 Canadiennes prendront part au nouveau programme « Les femmes font la force » en août et en octobre. Elles pourront s'entretenir avec des militaires et toucheront à différents aspects du monde de la vie militaire, y compris l'entraînement physique et les habiletés tactiques. Les Forces armées canadiennes ont déclaré s'engager à augmenter le nombre de femmes en service afin qu'elles représentent au moins 25,1% des effectifs d'ici 2026. Le président Donald Trump a annoncé officiellement le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur les changements climatiques.